bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors, c'était un peu une journée de merde aujourd'hui. On s'est réveillé avec Houellebecq, on a eu le droit à massacre à Charlie Hebdo à midi, mais avec Les Oreilles Loin du Front, on a décidé de garder le cap et de garder ce qu'on voulait faire aujourd'hui dans notre émission. Alors l'idée était de faire deux dossiers du jour, parce que c'est la rentrée et on voulait commencer l'année d'une façon un peu optimiste. Alors c'est peut-être un peu loupé pour la journée, mais on garde le cap, hein, parce qu'on voulait parler des élections en Grèce, des prochaines élections législatives qui auront lieu à la fin du mois de janvier. Et il se trouve que la gauche, la vraie gauche, la gauche de la gauche est en tête des sondages et a de fortes chances de passer. Donc on voulait savoir un peu ce qu'il en était avec le journaliste Fabien Perrier qui devrait être dans ce studio incessamment sous peu. Et puis on voulait aussi continuer de parler des luttes passées, mais aussi des façons de lutter un peu différentes. Avec, on voulait rendre un hommage à René Vautier qui est décédé dimanche dernier. Il est décédé chez lui tranquillement dans sa Bretagne qu'il aimait tant. Et en fait, on vous propose de rediffuser un entretien qu'on avait réalisé avec lui en 2001, où il raconte un peu son parcours et son travail. Et alors pour ceux qui l'ont quelque peu oublié, René Vautier est le réalisateur d'Avoir 20 ans dans les Aurès. Allez, on va commencer doucement mais sûrement avec de la musique grecque.
Είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν βαγκώνει, εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μα εγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν να ετός πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ, σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Περισσότερα να δω σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μαγώ με ένα άγριο περήφανο χορό σαν αετός πάνω απ' τις λίπες τα πετάξω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ.
Et oui, c'était Sigami Klapso de Yanis Agelakapos, donc un chanteur grec. Et alors, ça fait partie des protest sons qu'on peut entendre en ce moment en Grèce. Et alors, dans les paroles, si vous ne parlez pas grec, en fait, ça disait « Ils disent que je suis trop petit pour changer les choses. Non, je ne vais pas arrêter de crier, je n'ai pas peur. » C'est pour ça qu'on reçoit Fabien Perrier, qui est journaliste, et on voulait parler des élections en Grèce et de la possible victoire de la gauche, de la vraie gauche, en tout cas ce qui nous semblait comme ça, là-bas. Alors bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Alors bon, je crois qu'avant de commencer à parler de la situation en Grèce actuelle et de la peut-être à venir, tu veux peut-être dire un mot sur cette journée aujourd'hui ?
Je pense que c'est dur effectivement de parler ce soir, que ce soit de la Grèce ou de quelque chose que ce soit, après ce qui s'est passé dans les locaux de Charlie Hebdo, à savoir un véritable massacre. Cibler des journalistes n'est jamais anodin. Cibler l'information n'est pas anodin non plus. C'est finalement un pilier de la démocratie qu'on est en train d'attaquer. Et sans vouloir tirer de conclusion avant que les enquêtes puissent être menées, ce qui me paraît très dangereux, c'est que finalement, ces journalistes, cette information est attaquée à plusieurs niveaux. Au Canada, par exemple, c'est plusieurs milliers de postes qui sont supprimés à Radio-Canada, Mais en Grèce, c'est une télévision, un groupe de radio qui a été fermé en juin 2013.
C'est le RT, donc la télé publique grecque, qui avait été carrément fermée, puisque là, on va peut-être parler, avant de parler des élections, de la situation actuelle, où effectivement, on avait une situation quasi banqueroute avec une télé fermée, une situation économique catastrophique.
Personnellement, je pense que c'est un prétexte qui avait été utilisé que de dire que c'était la situation économique qui impliquait la fermeture d'ERT. Derrière, l'idée en fait du gouvernement était un peu différente, c'est-à-dire que ERT était en réalité un groupe rentable qui ne présentait pas de déficit particulier et qui en plus avait un véritable capital immobilier. Fermant ERT, on pouvait recréer une société et créant une nouvelle société, on pouvait se débarrasser, entre guillemets, de certains biens de l'ancienne société. Et moi, je vois plutôt dans la fermeture de ERT la volonté, comme je viens de le dire, de faire taire la démocratie. C'était le seul espace sur lequel les différentes composantes politiques pouvaient réellement s'exprimer. Et en même temps, essayer de récupérer par la vente des biens un peu d'argent, dont le gouvernement Samaras, qui est un premier ministre de la droite, Nouvelle Démocratie, hein, c'est le parti de droite pilier en Grèce, donc dont le premier ministre nous explique pourtant aujourd'hui que la Grèce n'a plus de problème et qu'il faut continuer à voter pour lui, puisque des élections arrivent le 25 janvier.
Et j'imagine aussi que ça devait plaire à la Troïka et à tous les gens du FMI, cette vente des biens publics de l'ERT.
En tout cas, ils n'ont pas condamné. Donc, à partir de là, chacun peut se faire son opinion. Bon, je pense que s'ils n'ont pas condamné, ils n'ont pas non plus exprimer un accord ou un avis favorable publiquement sur la fermeture de ERT. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient bien conscients que la fermeture de ERT entraînait une prise de conscience des attaques sur la démocratie, attaques orchestrées par le gouvernement. Donc quand c'est un gouvernement qui est censé être élu démocratiquement, qui s'en prend à un espace de démocratie, ça en dit long sur les failles, sur les faiblesses, et pire que ça, sur l'état de déliquescence dans lequel certains aimeraient mener les démocraties dans leur ensemble.
Justement, puisque tu parles de l'état de déliquescence, quand la Troïka a fait des aides financières à la Grèce, il y avait des contreparties, et ces contreparties ont eu des conséquences dramatiques sur la population grecque.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que en octobre 2009, des élections ont été organisées, des élections législatives, à l'issue desquelles le PASOK, un parti social-démocrate de centre-gauche, on va dire, les Grecs refusent de le considérer comme un parti de gauche. Mais en tout cas, le PASOK est arrivé à la tête en tête de ces élections et a formé un gouvernement. Il a été élu plus par dépit que par adhésion. Sauf qu'il avait un slogan qui était « De l'argent, il y en a ». Nous irons le chercher là où il faut. Toute ressemblance avec tout autre parti ne serait que purement fortuite, selon certains. Mais ça, je ferme la petite parenthèse. En tout cas, il arrive au pouvoir et là, la réalité des comptes publics est révélée. Et la dette grecque, le déficit public grec, sont bien plus importants que ce que l'on croyait. Il y a eu un jeu de spéculation énorme qui a renforcé le poids de la dette grecque. Sauf qu'à ce moment-là, on est début 2010, la dette grecque n'atteint que 120% du PIB, produit intérieur brut. Le FMI, la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne considèrent que la Grèce doit absolument pouvoir continuer à se financer et prête à la Grèce, mais en échange de réformes qui sont ce qu'on appelle des réformes structurelles, où on va changer de fond en comble les voies de l'économie d'un pays, en fait. C'est un premier prêt de 110 milliards, puis en échange, on va dire, sont appliquées des politiques que l'on qualifie de politiques d'austérité. Donc, pour atteindre ces réformes structurelles, baisse des salaires, baisse des pensions, hausse des taxes, vente d'un certain nombre de biens de l'État, d'entreprises publiques, etc., etc. Ce remède, c'est tout du moins ce que disait le docteur Troïka, ces remèdes n'ont fait qu'empirer le mal. Aujourd'hui, la dette grecque est à plus de 170% du produit intérieur brut. Le chômage, qui était aux alentours de 10% début 2010, est à plus de 25% aujourd'hui. Il a dépassé parfois les 27%, il a atteint 27,6% de dette. Les entreprises grecques sont d'abord des petites entreprises avec un maximum de 10 employés. En réalité, la plupart ont 2 à 4 employés. Sur ce tissu de 800 000 entreprises de ce type, il n'en existe aujourd'hui plus que 550 000 et on prévoit dans l'année à venir la mort de 100 000 entreprises de ce type. Autrement dit, il y a le chômage, il y a des revenus qui ont baissé, tout ça engendre une baisse de la consommation, des rentrées qui ne rentrent, fiscales qui n'ont plus lieu non plus puisque les citoyens ont leurs revenus qui diminuent, puisque les entreprises sont éradiquées. Donc, il n'y a plus de rentrée dans les caisses de l'État. Il n'y a plus de moyens de relance avec les politiques qui sont menées. Et pourtant, on nous dit aujourd'hui qu'il faut absolument continuer sur la même voie. C'est un danger, mais tout le monde semble s'en contenter. J'en veux pour preuve le fait que en 2014, donc l'année dernière, mais c'était en réalité il n'y a que quelques jours, Moscovici, qui est un ancien ministre des gouvernements socialistes français, et qui est toujours membre...
Qui est censé être de gauche, on va dire.
En tout cas, il appartient au Parti Socialiste. Chacun mettra l'étiquette qu'il veut sur le Parti Socialiste. Mais Moscovici est allé à Athènes pour dire, en gros, qu'il ne fallait pas voter pour les partis autres que ceux qui sont déjà au pouvoir, tout en sachant que depuis la chute des colonels en 1974, ce sont en réalité deux partis, dont j'ai déjà cité les noms, qui gouvernent la Grèce, Nouvelle Démocratie d'un côté, et quand c'est pas Nouvelle Démocratie, le PASOK. Autrement dit, ceux qui ont masqué les comptes, ceux qui ont contribué à laisser l'État grec se détériorer comme il est, ceux qui ont fait le jeu du clientélisme, ceux qui ont utilisé toutes ces arguties incroyables, sont ceux que les dirigeants européens aujourd'hui, alors qu'ils me disent qu'il faut des réformes structurelles de surcroît, ceux auxquels les dirigeants européens demandent de rester en place. C'est soit de la schizophrénie, mais je crois que ce serait là bien la première fois qu'on accuserait Moscovici de schizophrénie, soit une ironie telle qu'elle m'inquiète parce que c'est en réalité un cynisme sur le dos du peuple grec.
Oui, parce qu'en ce moment, on le sent bien, les gens en ont marre, quoi. Et d'ailleurs, là, il y a des prochaines élections, et ce qui fait peur, d'ailleurs, à certains, et en particulier à Moscovici, hein, c'est que la gauche, en particulier Syriza, donc c'est, on va considérer la gauche de la gauche, est en tête des sondages.
Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mois de septembre, octobre et novembre en Grèce ont été des mois assez agités, dont les médias français ont assez peu parlé. Agité parce qu'il y a eu un symbole qui a été le jeune anarchiste Nikos Romanos qui s'est mis en grève de la faim. Et on pourra revenir sur cette histoire, entre guillemets, mais qui s'est mis en grève de la faim et qui a obtenu le soutien de la population. Et Nouvelle Démocratie a en même temps essayé de faire, qui gouverne aujourd'hui avec le PASOK, donc les sociodémocrates, c'est une alliance de la droite et des sociodémocrates, la Grèce en ce moment. Nouvelle Démocratie a joué un coup. Quand ils ont vu qu'ils faisaient passer leur budget à très peu de voix, ils se sont dit, on va anticiper les élections présidentielles. La Grèce, c'est un système monocaméral, donc une seule chambre, 300 députés à la voulie, l'Assemblée grecque, et le président de la République est élu par les députés. Donc, en avançant le calendrier de l'élection, il savait qu'il provoquait une élection anticipée du président, il provoquait bien sûr une élection anticipée du président de la République, mais comme il n'y avait pas une majorité pour voter pour le candidat présenté, qui était un ancien commissaire européen, on allait vers une dissolution de l'Assemblée, comme dans tout système, une seule chambre qui élit le président. Et du coup, eh bien, c'est le moment, on va dire, où Syriza peut éventuellement remporter les élections.
Mais dans ces élections législatives anticipées.
Des élections législatives anticipées. Mais que fait-il en avançant cette date? Il provoque de surcroît une campagne courte. Et, petite, entre guillemets, finesse de sa stratégie, c'est qu'il se donne des éléments pour dire « sans moi, c'est le chaos ».
Mais alors, Syriza, tu en parles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu ce qu'est ce parti et quel est ce programme, en fait?
Ben justement, tout à l'heure, tu as dit « les Grecs en ont marre ». Et je pense que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a été visualisé au moment de l'échec de l'élection du président de la République. Les députés, y compris des députés de droite, des députés grecs indépendants, par exemple, n'ont pas pu voter pour le candidat présenté par le gouvernement. Parce qu'ils savent que quand ils vont retourner dans leur circonscription, s'ils votent pour lui, ils ne sont pas réélus. Donc, il y a une volonté de changement actuellement en Grèce. Et Syriza est sans doute le parti qui incarne le plus cette volonté de changement. C'est à la base une coalition. En 2009, la coalition Syriza ne faisait que 4,5% des voix, qui s'est transformée en parti en juin 2012, parce que pour pouvoir accéder au poste suprême, il faut être constitué comme parti. Donc la coalition est devenue parti. Et aujourd'hui, c'est le parti qui a environ 30% des intentions de vote dans les sondages. Parce que c'est le seul parti avec le parti communiste grec, mais qui est un parti extrêmement dogmatique, qui refuse toute alliance, y compris à gauche. Syriza, donc, est le seul parti qui a toujours été opposé aux politiques d'austérité. Et le seul parti qui a toujours travaillé avec les mouvements sociaux dans leur diversité, qu'ils soient mouvements syndicaux, qu'ils soient mouvements
étudiants aussi,
qu'ils soient féministes, qu'ils soient écologistes. Bref, c'est une assemblée qui brasse assez large, j'ai envie de dire, mais avec une ligne directrice, changement de projet de société et premier changement, non au mémorandum, non aux politiques d'austérité et non finalement à une politique imposée en dehors de toute volonté populaire.
Alors, dans la presse française en particulier, il y a cette espèce de chose, on voyait dans Le Monde, où il disait « Oulala, si Syriza passe, la Grèce va sortir de l'euro, ça va être une catastrophe, c'est pas possible, c'est irréalisable ».
Oui, parce que tous ceux qui disent que la Grèce va sortir de l'Europe devraient retourner à leur cours de géographie. L'Europe est un continent, à moins qu'il y ait une technologie des plaques incroyables ou un séisme incroyable, la Grèce ne sortira pas de l'Europe, c'est sûr. En revanche, ils veulent dire par là de l'Union européenne, qui est une construction politique, tout comme l'euro est une construction politique et monétaire et économique. Syriza n'a jamais dit et ne dit pas qu'ils veulent une sortie de l'euro. Au contraire, toutes les personnes sérieuses qui lisent le programme de Syriza peuvent se rendre compte que tout est dit dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre de l'euro. Autrement dit, Syriza, lui, a un principe simple. C'est « nous ne sommes pas d'accord avec les politiques qui sont menées. Nous vivons aujourd'hui un drame humanitaire en Grèce. Un chiffre près de 35% de la population est sous le seuil de pauvreté si on prend comme référent le niveau de 2008. Donc 35% sous le seuil de pauvreté. Eh bien, donc, première politique que Syriza entend mener, c'est halte au drame humanitaire en construisant des logements, en faisant que chacun ait accès au fioul, en créant des emplois, etc. Bref, impulser une dynamique favorable d'un point de vue économique. Deuxième grand pilier de Syriza, c'est renégociation de la dette. Peut-être que certains pays ne veulent pas en entendre parler. La preuve, Angela Merkel a expliqué en gros sans essayer de trahir, en essayant de ne pas trahir ses pensées, en essayant d'être le plus juste possible, que toute demande de renégociation impliquait une sortie de l'euro. Mais c'est elle qui le dit. Ce n'est écrit dans aucun traité. Elle oublie de surcroît qu'en 1953, l'Allemagne a profité d'une renégociation de sa dette. Même un trait a été mis sur la dette allemande. Et l'Allemagne n'existerait pas dans sa dimension économique actuelle si elle n'avait pas eu à un moment ce coup de pouce incroyable, mais qui était un coup de pouce qu'on pouvait légitimer intellectuellement. C'est quelque chose qui peut se défendre, mais c'est un rapport de force.
Surtout à long terme, c'est quand même, si on pense à la construction européenne à long terme, c'est quelque chose qui paraît logique.
C'est quelque chose qui paraît logique. Parce que les Allemands, par exemple, ont construit un métro à Athènes. Siemens, un métro pour lequel les Grecs ont dû s'endetter. Bien, qu'ont-ils fait ? Ils ont construit un circuit fermé. Autrement dit, si demain, Alcatel ou Bombardier, ou si les Grecs créaient leur propre entreprise de métro, voulaient développer leur propre rame, ce n'est pas possible. Ils ont verrouillé le système. Donc voilà où on en est. Et après, on dit, mais c'est les Grecs qui sont des fainéants, passent leur vie au soleil, etc. Tiens, combien de personnes savent, ou combien de journaux qui écrivent que la Grèce devrait sortir de l'euro, savent que la plus haute compétitivité en Europe en 2009 était la Grèce. C'est des choses que l'on peut lire facilement. Je crois même que c'est le Financial Times, qu'on ne va pas accuser d'être dangereux gauchiste, qui avait sorti l'information. Eh bien, ça, ce sont des informations qu'on oublie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises grecques, les grandes entreprises qui survivent, ont vu leurs gains augmenter, leurs marges augmenter. Donc, la question qui se pose, c'est à qui profitent ces politiques ?
Ah oui, à qui profitent ces politiques ? Et alors, on sent aussi qu'il y a quand même une vraie popularité dans ces élections avec Syriza, où il y a la société civile qui est quand même derrière cette lutte contre les plans d'austérité.
Alors, la première question, à qui profitent les politiques ? Évidemment, à un certain nombre d'entreprises ou de classes sociales dominantes. Un exemple, les armateurs ne payent toujours pas d'impôts en Grèce. Mais on lit partout que les Grecs n'ont pas de cadastre, etc. Certes, c'est un problème par rapport à des normes européennes, mais qui sont des normes, donc fixées. En revanche, d'un point de vue de la justice sociale, donc là, on se place sur un plan de l'intellectuel, d'une question de morale, finalement. Est-ce qu'il est normal que les armateurs ne payent pas d'impôts ? Est-ce qu'il est normal que l'Église ne paye pas d'impôts ? Que répond l'Église, par exemple ? Elle répond « Mais nous, on fait de la charité. » Alors, si c'est un projet de société, c'est un choix. Mais là, de nouveau, on en revient à une question qui est celle du projet de société. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question, sur qui soutient Syriza ?
Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une société civile derrière, ou est-ce que c'est une construction un peu, un vote contestataire ponctuel, on va dire ?
Je me garderai de dire que c'est un vote contestataire ponctuel, dans le sens où, en 2009, ils étaient à 4,9% et aujourd'hui, ils sont donnés à 30%. Rien n'assure d'ailleurs qu'ils obtiendront ce score, vu la peur qui est diffusée contre Syriza actuellement. Mais ils n'ont fait que monter entre 2009 et aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une base de la population qui vote pour eux par contestation, mais ce n'est pas le seul parti qui est assimilé à un parti contestataire, et une autre base de la population qui aujourd'hui se retrouve dans les valeurs de Syriza. Parce que le trop-plein, on va dire, d'austérité, ce qui ne veut pas dire que je légitime quelque dose d'austérité que ce soit, mais le trop-plein d'austérité a montré qu'il fallait aller vers un autre type de raisonnement politique.
Alors, dans les partis protestataires qu'il y avait en Grèce et dont on a parlé pendant très longtemps, c'est aussi l'extrême droite, en particulier l'Aube Dorée, qui a été très puissante. Et c'était vraiment des vrais fascistes qui font particulièrement peur.
Et c'est des néo-nazis.
Des néo-nazis, voilà. Est-ce qu'ils sont toujours aussi présents ?
Ils existent toujours. Quelques-unes de leurs têtes sont en prison, mais Elles ont le droit de sortir de prison pour voter pour le président de la République.
Parce qu'ils étaient au Parlement, quand même.
Voilà, à ce moment-là, ils étaient au Parlement. Deuxièmement, dans les sondages, Aube Dorée est encore donnée à des taux importants et, quoi qu'il en soit, trop importants par rapport à ce qu'est réellement ce parti dans sa structure idéologique. Néo-nazi est le terme qui convient, fasciste est le terme qui convient. Et un autre terme qui peut convenir pour définir ce que pensent les dirigeants. Le problème, c'est que Aube Dorée est finalement un petit peu... a réussi à s'implanter dans la population. Et on est bien placé pour savoir que l'on sait quand l'extrême droite commence à s'implanter, mais on ne sait jamais comment on peut s'en débarrasser.
Oui, effectivement. Alors là, il y a les élections qui arrivent, qui sont... C'est à quelle date exactement déjà ?
25 janvier.
Et donc, ces élections ont des enjeux, c'est quand même énorme pour la Grèce.
C'est des enjeux énormes pour la Grèce et c'est des enjeux énormes pour l'Europe. Les enjeux pour la Grèce, le premier, ça va être en réalité la constitution d'un gouvernement. Si Syriza arrive au pouvoir, dans le rapport des forces actuelles, avec qui peut-il s'allier ? C'est une vraie question. La deuxième question qui va se poser, c'est si Syriza, toujours d'un point de vue interne, si Syriza arrive au pouvoir, c'est s'il s'allie avec qui que ce soit, s'ils peuvent constituer un gouvernement, est-ce que ce gouvernement sera durable ? Et la troisième question, c'est s'il n'arrive pas à constituer de gouvernement, ce sera une forme de légitimation de ce que dit Samaras aujourd'hui. Sans moi, c'est le chaos. Puisque s'il n'y a pas de gouvernement, de nouvelles élections législatives seront organisées. Et là, nul ne sait qui arrivera. Et le deuxième enjeu est très important. C'est un enjeu européen. Et c'est peut-être pour ça qu'un certain nombre de gens aujourd'hui s'expriment contre Syriza de facto. C'est que le changement de gouvernement en Grèce montrerait qu'une voie populaire est possible pour faire accéder dans un pays un parti qui veut mener au gouvernement une politique autre que celle qui est dans un certain nombre de traités. Donc il faut revoir des traités. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, et là, les gens de la gauche en France le savent très bien, qui est le premier soutien de Syriza en France ? C'est le parti communiste français dont le secrétaire national Pierre Laurent a toujours soutenu Syriza. Il est par ailleurs président du parti de la gauche européenne. Eh bien, ces mêmes personnes qui soutiennent Syriza sont les gens que l'on entend assez peu, finalement, sur les ondes. C'est donc bien qu'à un moment, la pensée différente, et dans un certain sens, nous revenons à ce par quoi nous avons commencé, la pensée différente, celle qui ose provoquer, celle qui ose dire que les choses ne sont pas si simples, qu'il faut parfois penser autrement et qu'il faut même en tout cas toujours être critique, eh bien cette pensée simple, régulièrement, on veut la faire taire par des moyens malheureusement parfois dramatiques.
Oui, alors là, les élections sont dans quelques jours. Et est-ce que, alors c'est peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a un taux d'abstention qui est important ou est-ce qu'il y a une véritable mobilisation en Grèce ?
Le vote est obligatoire en Grèce. À partir de là, normalement, le taux d'abstention n'est pas élevé. Mais parfois, il y a une petite abstention. Moi, je pense que... sans vouloir jouer à Madame Soleil ou à
Madame Irma, je sais quoi,
qu'il y a une mobilisation. Enfin, j'étais en Grèce il y a quelques semaines, j'y retourne prochainement. Il y a une volonté de faire changer les choses, telle que les Grecs vont sans doute aller voter massivement. Maintenant, chacun aura son choix, le mien est fait.
En tout cas, toi, tu seras en Grèce dans quelques jours, oui. Donc tu pourras nous faire le suivi des élections, et j'espère qu'on te recevra peut-être ici, ou qu'on fera peut-être un duplex directement pour savoir ce qui se passe exactement durant les élections.
Un duplex avec plaisir, j'espère d'ailleurs du son grec derrière.
En tout cas, merci beaucoup d'être passé par ce studio. Et donc, Fabien, on peut te lire dans quelques...
Oui, là, il y a un dossier dans Alternative économique sur la situation économique en Grèce et la situation sociale. Sur hexagone.fr, j'ai fait un assez long papier sur la situation, on va dire sur le drame humanitaire, la situation sociale. Et régulièrement, j'écris sur le site regard.fr.
En tout cas, merci beaucoup.